Une action supramentale, parfaite, ne se conformera à aucun principe exclusif, à aucune règle limitée. Il est peu probable qu'elle obéisse aux normes de l'individu égoïste ni à celles d'un mental collectif organisé. Elle ne se conformera pas aux exigences de l'homme du monde ordinaire, positif et pratique, ni à celle du moraliste conventionnel, du patriote, du philanthrope sentimental, ni à celle du philosophe idéaliste. Elle ne sera pas choisie, calculée et standardisée comme le sont les actes de la raison intellectuelle ou de la volonté morale, mais jaillira spontanément des sommets dans la totalité d'un être, d'une volonté, d'une connaissance éclairée et sublimée. Son seul but sera d'exprimer ce qui est divin en nous et de garder la cohésion du monde dans sa marche vers la manifestation qui doit être. Et ce ne sera même pas tant un but ou un dessein qu'une loi spontanée de l'être et une détermination intuitive de l'action par la lumière de la vérité divine et par son influence automatique. Comment l'action de la nature, l'action supramentale procédera d'une volonté et d'une connaissance totale derrière la nature. Mais au lieu d'une volonté et d'une connaissance obscurcie dans une pakriti ignorante, ce sera une volonté et une connaissance éclairée dans une suprême nature consciente. Ce ne sera pas une action asservie aux dualités, mais à une action pleine et vaste dans l'impartiale joie d'être de l'esprit. Le mouvement joyeux inspiré d'un pouvoir et d'une sagesse divine qui nous anime et nous guide remplacera la perplexité et les faux pas d'un égo souffrant et ignorant. Si par miracle, de quelques interventions divines, l'humanité tout entière pouvait d'un seul coup être soulevée à ce niveau, nous aurions sur Terre quelque chose qui ressemblerait à l'âge d'or des traditions, le Satya Yuga. Alors, Sri Aurobindo, il y a un Nota Bene, il explique. Les termes indiens désignant l'âge d'or sont Satya, l'âge de vérité, et Krita, l'âge où la loi de la vérité est accomplie. La tradition indienne distingue quatre cycles du yoga dans la manifestation universelle. Satya Yuga, l'âge de vérité, Theta, Treta Yuga, l'âge où il ne reste plus que les trois quarts de la vérité. Dvapara Yuga, l'âge où il ne reste plus que la moitié de la vérité. Kali Yuga, l'âge de fer ou l'âge noir, quand toute vérité a disparu. Après le Kali Yuga revient le Satya Yuga, et ainsi de suite. Le Satya Yuga, l'âge de la vérité ou de l'existence vraie, car le signe du Satya Yuga est que la loi devient spontanée et consciente en chaque créature, et qu'elle accomplit ses œuvres dans une harmonie et une liberté parfaite. L'unité et l'universalité seraient les fondements de la conscience de l'espèce. Et non, une division séparative, l'amour serait absolu. L'égalité serait compatible à une hiérarchie et parfaite dans le respect des différences. La justice absolue serait assurée par une action spontanée de l'être en harmonie avec la vérité des choses et avec sa propre vérité et celle des autres. Et par conséquent, serait certaine d'un résultat juste et vrai, la raison juste, non plus mentale, mais supramentale, ne se consentirait pas à observer des règles artificielles et percevrait automatiquement et librement les relations justes entre les choses et les traduirait inévitablement en actes. Les querelles de l'individu et de la société ou les désastreux conflits entre les communautés ne pourraient pas exister. La conscience cosmique se serait implantée dans les êtres terrestres et assurerait une diversité harmonieuse dans l'unité. Étant donné l'état actuel de l'humanité, c'est à l'individu de gravir ses hauteurs tel un pionnier et un précurseur. Son isolement dans la masse donnera nécessairement à ses activités extérieures une détermination et une forme très différente de celle que revêtirait une action collective consciente et divine. L'état intérieur, la source de l'acte seront les mêmes, mais les actes mêmes seront probablement très différents de ce qu'ils seraient sur Terre, sur une Terre libérée de l'ignorance. Néanmoins, sa conscience et le mécanisme divin de sa conduite seront bien tels que nous les avons décrits, libres de tout asservissement aux impuretés vitales et aux désirs et aux impulsions fausses que nous appelons péchés, libres des règles et des formules morales prescrites que nous appelons vertus. Spontanément, sûr et pur et parfait, dans une conscience plus grande que la conscience mentale, gouverné à chaque pas par la lumière et la vérité de l'esprit. Mais si l'on pouvait réunir en une collectivité ou en un groupe ceux qui ont atteint à la perfection supramentale, alors, en vérité, une création divine pourrait prendre forme. Une nouvelle terre pourrait descendre, qui serait un nouveau ciel. Un monde de lumière supramentale pourrait être créé ici-bas, au milieu même de l'obscurité déclinante de l'ignorance terrestre. Voilà. Alors, je vais juste vous lire un petit passage du chapitre 8 qui suit. Il est très intéressant. Je le lirai la prochaine fois. Mais je voudrais vous lire un tout petit peu ce que Sri Aurobindo décrit de la volonté suprême, synthèse des yogas, chapitre 8. L'ascension comprend trois étapes. Tout en bas, la vie corporelle, qui est l'esclave de la pression, des nécessités et du désir. Au milieu, le règne du mental, des émotions supérieures et du psychique, qui cherche à tâtons des mobiles plus élevés, des aspirations, des expériences et des idées plus hautes. Et au sommet, tout d'abord, un état psychique et spirituel plus profond, puis une conscience supramentale éternelle en laquelle toutes nos aspirations et nos recherches découvrent leur propre signification intime. Dans la vie corporelle, c'est d'abord le désir et le besoin, puis le bien pratique de l'individu et de la société qui sont la considération primordiale, la force dominante. Dans la vie mentale, les idées et les idéaux gouvernent. Les idées qui sont les demi-jours parés du costume de la vérité. Des idéaux formés par le mental d'après une intuition et une expérience grandissante, mais encore imparfaite. Chaque fois que la vie mentale prévaut et que la vie corporelle diminue ses revendications brutales, l'homme, être mental, se sent poussé par l'élan de la nature mentale à modeler la vie de l'individu selon une idée ou un idéal. Et finalement, même la vie plus vague et plus complexe de la société se voit contrainte de suivre ce processus subtil. Dans la vie spirituelle, ou quand un pouvoir plus haut que le mental se manifeste et prend possession de notre nature, ses forces motrices limitent, reculent, déclinent, tentent à disparaître. Le moi spirituel ou supramental, l'être divin, la réalité suprême est immanente, doit être le seul Seigneur en nous et façonner librement notre développement final conformément à la loi de notre nature et à son expression la plus haute. Finalement, notre nature agit dans la vérité parfaite et la liberté spontanée, car elle obéit au lumineux pouvoir de l'Éternel et à lui seul. L'individu n'a plus rien à gagner, plus de désir à satisfaire. Il fait désormais partie intégrante de l'impersonnalité de l'Éternel et de sa personnalité universelle. Alors je répète, il fait désormais partie intégrante de l'impersonnalité de l'Éternel ou de sa personnalité universelle. Nul autre motif ne saurait le pousser à l'action que la manifestation et le jeu de l'Esprit divin dans la vie et la protection ou la conduite du monde dans sa marche vers le but divin. Les idées, les opinions, les constructions mentales ne sont plus les siennes, car son mental est entré dans le silence. Il n'est plus qu'un canal de la lumière et de la vérité de la connaissance divine. Les idéaux sont trop étroits pour la vastitude de son esprit. L'océan de l'infini coule à travers lui et le meut à jamais. Sri Aurobindo. Je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Douce Mère.